Dieu est vivant. Et nous allons lire sa parole qui est vivante, qui est agissante, opérante et qui est encore actuelle, qui répond à tous nos besoins. Dieu est vivant. Prenons ensemble l'évangile de Luc au chapitre 24. Évangile de Luc, chapitre 24, au verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Voilà, ce soir, nous allons nous intéresser à ce passage où nous voyons dans ce passage des disciples proches de Jésus. Nous voyons, nous avons lu Marie de Magdala, Jeanne, Marie. Il y avait deux Maries qui sont comme cela venues au sépulcre, ces femmes dont il est question dès le début de ce passage. Et on voit, il est question aussi au verset 9 que ces femmes sont venues annoncer aux 11. Les 11, il est question des 11 apôtres, des disciples que Jésus-Christ avait choisis pour être ses apôtres, être avec lui durant tout son ministère. Ces hommes, ces femmes dont il est question dans ce passage ont vraiment suivi Jésus durant pratiquement tout son ministère terrestre. Ils étaient là près de lui, ils l'ont entendu, ils ont entendu ce qu'il annonçait. Mais ils l'ont vu agir, ils l'ont vu faire des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Mais on voit qu'ils n'ont pas tout compris, ils n'ont pas tout saisi. Et dans ce passage, on voit que il y avait de l'incrédulité dans les cœurs. On voit que il y avait des obstacles qui étaient là, qui les empêchaient de réaliser les paroles qu'avait données Jésus. On voit d'abord ces deux femmes, ces deux Maries qui sont venues le premier jour de la semaine, nous est dit ce passage de grand matin pour porter des aromates, pour porter les aromates qu'elles avaient préparées. C'était une pratique qu'il y avait d'embaumer le corps avec des aromates. Et elles revenaient au tombeau où avait été placé Jésus pour embaumer le corps de Jésus. Donc elles pensaient retrouver Jésus dans ce sépulcre mort. Elles pensaient trouver Jésus mort. Et on voit que même les 11 pensaient aussi de la même manière. Ils pensaient que Jésus était mort. Et on peut lire dans les autres évangiles, dans le parallèle de ce passage, que les disciples étaient vraiment affligés, qu'ils étaient dans le deuil, qu'ils pleuraient, qu'ils étaient là réunis entre eux, mais qu'ils étaient vraiment affligés de ce moment-là. Parce qu'ils pensaient que Jésus était mort. Et le titre de mon message, c'est « Dieu n'est pas mort ». Jésus n'est pas mort, il est vivant, Dieu est vivant. Oui, ça peut être interpellant, étonnant, parce que historiquement, on peut avoir entendu cela. Jésus-Christ est mort, il est passé par la croix. Oui, on peut l'entendre. Mais Jésus-Christ, c'est vrai, il est passé par la croix, mais il est vivant. C'est ce que nous dit la Bible, c'est ce que Jésus dit de lui-même. On trouve ce passage dans l'Apocalypse, au verset 18 du chapitre 1. « J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. J'étais mort, et voici, je suis vivant. » Jésus-Christ est vivant. Ses disciples étaient là, ses femmes étaient là, affligées, tristes, désespérées. Leur espérance s'était évaporée. Ils avaient eu vraiment de l'espoir à voir Jésus, de l'espoir à le voir intervenir, à le voir agir, à l'entendre. Ils pensaient réellement que Jésus-Christ était oui, le sauveur qui allait les libérer, mais qui allait les libérer aussi de la domination des Romains. À ce moment-là, la nation d'Israël était sous la domination des Romains, et ils pensaient que Jésus-Christ était venu pour cela, pour les délivrer de la domination des Romains. Et en voyant Jésus-Christ sur la croix, en le voyant passer par la mort, ils se sont dit « c'est terminé ». Pour eux, c'était un échec. Et ils venaient de vivre comme un faux espoir. Ils étaient là, affligés de ces choses-là. Ils venaient, voilà, comme de vivre un faux espoir. Et il y a des choses comme cela qui peuvent nous attrister, qui peuvent nous affliger. Il y a des faux espoirs que l'on peut vivre dans la vie. C'est dur de vivre un faux espoir. Moi, je sais que j'ai eu des espoirs, des espérances, des choses que j'espérais, mais que j'ai vu s'évaporer. Et c'est blessant, c'est brisant. Surtout quand on attend de grandes choses, des choses importantes. Et ses disciples étaient là, vivant comme cela, un faux espoir. Jésus-Christ va, on l'a lu ensemble, Jésus-Christ, et ces anges qui sont venus, qui sont apparus à ces deux femmes, qui sont allées au tombeau. Elles sont allées au tombeau chercher Jésus et elles pensaient le trouver mort. Mais elles ont vu déjà cette pierre ôtée et deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Ces deux hommes, c'étaient des anges, et ils leur ont posé cette question. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Jésus-Christ, et c'est ce que ces anges ont pu dire, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Jésus-Christ est ressuscité. Et on le voit ressuscité, on le voit par la suite, dans le même chapitre, apparaître à deux disciples. On le voit à partir du verset 17, juste après le passage que nous avons lu. On voit Jésus venir auprès de deux disciples, qui étaient comme ses disciples, comme les onze, comme ces femmes qui étaient désespérées, qui venaient de vivre, voilà, comme un faux espoir. Et ses disciples étaient là, et Jésus va leur dire... De quoi vous entretenez-vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Tout le monde était attristé dans ce moment-là. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Il posait cette question à Jésus lui-même, Jésus ressuscité. Et Jésus va leur dire : Quoi ? Leur dit-il, et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus, par la suite... va leur expliquer, au travers des paroles, au travers de l'Écriture, que tout ce qui s'était passé devait arriver, que tout était prévu, préparé, selon le dessein, selon le plan arrêté par Dieu, que la croix, ce n'était pas un échec, Jésus-Christ à la croix, ce n'était pas un échec, ce n'était pas une erreur de parcours, mais que c'était vraiment la mission pour laquelle était venu Jésus-Christ. Je reviens à ces faux espoirs. Les disciples ne le réalisaient pas à ce moment-là. Réalisaient pas que Jésus-Christ avait accompli la parole de Dieu, tout ce qui avait été annoncé. Et ils étaient là vivant comme un faux espoir. Et il peut y avoir toutes sortes de faux espoirs dans nos vies. On peut croire et avoir eu comme espoir, voilà, je vais réussir. Je vais m'en sortir, je vais trouver un travail, je vais trouver une famille, être uni, toutes sortes d'espérances comme cela, qui nous touchent, qui nous concernent. Je vais être en paix, des espérances par rapport à un problème physique, une guérison, des espérances par rapport voilà, à la famille, au travail, toutes sortes de domaines. On peut avoir toutes sortes d'espérances, mais qui peuvent partir en fumée. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on ne vit pas ces espérances. Mais ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, ce n'est pas nous faire vivre des faux espoirs. Ce que Jésus-Christ a annoncé, il l'a accompli. Ce que la parole de Dieu dit, ça s'accomplit, et Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour donner des faux espoirs. Autant dans ce monde, il y a beaucoup de faux espoirs. Autant Dieu, Jésus-Christ, n'est pas comme un homme pour nous donner de faux espoirs. Il n'est pas un homme, la Bible nous dit, pour mentir. Mais il est venu pour nous donner des certitudes, des convictions. Il est venu pour manifester sa grâce, sa puissance et confirmer sa parole. Oui, encore aujourd'hui, encore ce soir, on peut expérimenter cela, expérimenter sa parole, sa grâce, son amour, sa paix, sa restauration. Ce sont des choses que Dieu a parlé, que Jésus-Christ a annoncées. Et ces choses-là, ce ne sont pas des faux espoirs que Dieu veut nous donner. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ce n'est pas dans ce monde qui est stérile, ce n'est pas dans ce monde qui met Dieu à la porte que l'on trouvera la solution. Ce n'est pas dans ce monde qui est, on pourrait dire, spirituellement mort que l'on trouvera celui qui est vivant. Celui qui est vivant, nous pouvons le trouver simplement en nous approchant de Jésus-Christ, par la foi, en nous approchant de lui. Et ce soir, cela est possible à chacun d'entre nous. Il y a ce passage dans la parole où on voit une femme qui a fait cette expérience. Une femme qui était comme cela sur un chemin de mort, qui était et qui allait dans un lieu de mort. Une femme qui était veuve et qui venait de perdre son fils unique. On trouve ce passage dans Luc chapitre 7, verset 11. Et on voit dans ce passage cette femme qui vient de perdre son fils. Son fils vient de décéder. Et son fils va être emmené. Il y a un cortège comme cela qui va se faire. Plusieurs personnes vont entourer cette mère qui est veuve et qui vient de perdre son fils unique. Son fils unique. Elle se retrouve désespérée, dans une douleur, on peut s'imaginer, mais je pense pas qu'on peut réellement comprendre la douleur de cette femme à ce moment-là. Cette douleur extrême, ce désespoir qu'il devait y avoir dans son cœur. Et on voit ce cortège qu'il y a là et qui amène son fils décédé dans un cercueil pour l'enterrer. Et dans ce passage, on voit un autre cortège. On voit Jésus-Christ et ses disciples entourés d'une foule. Il y avait une foule qui suivait Jésus-Christ et ses disciples. Et ces deux cortèges vont se rencontrer. Ils vont s'arrêter. Et il est dit que le Seigneur, Jésus-Christ, ayant vu cette femme, ayant vu cette situation, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est quelque chose de, de déroutant. Je trouve cette parole est très étonnante. Quand on se met à la place de cette femme, quand on s'imagine la douleur, le désarroi dans son cœur, cette situation, on va enterrer son fils. Et ces deux cortèges se rencontrent et Jésus-Christ va dire à cette femme, ne pleure pas, ne pleure pas. Et par la suite, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Ne pleure pas. Jésus-Christ n'est pas venu pour donner de faux espoirs. Il savait ce qu'il allait accomplir. Il est celui qui peut réellement consoler les cœurs affligés, ceux qui sont dans le désarroi le plus extrême, où il n'y a aucune situation, aucune solution humaine. Oui, il est celui qui peut dire « ne pleure pas » dans des situations désespérées, parce qu'il est celui qui a tout pouvoir. Oui, il est celui qui a créé le ciel, la terre. Il a tout pouvoir. Ressusciter un mort pour Jésus, ce n'est pas grand-chose. Il a tout pouvoir. Il est vivant et il est venu pour manifester sa puissance et pour communiquer la vie, pour montrer qu'il avait tout pouvoir sur la vie, la mort, et qu'il était capable, oui, de communiquer la vie même à un mort. On voit ces deux cortèges se rencontrer. Et cette femme qui était sur un chemin de tristesse, un chemin d'angoisse, un chemin où elle était désespérée, un chemin où elle allait dans un lieu de mort, un cimetière où son fils allait être enterré, elle a rencontré le vivant. Elle a rencontré Jésus-Christ, celui qui donne la vie, une vie faite d'abondance, non pas une vie faite de faux espoirs, mais une vie où on est comblé, où nos espérances sont comblées. C'est ce que dit la Bible. Et Dieu a comme cela des projets pour chacun d'entre nous, des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Là où il n'y a plus d'espérance, là où il y a eu des faux espoirs, des déceptions face à tant de domaines, Jésus-Christ est celui qui veut nous donner de l'espérance, un avenir, du courage. Oui, en lui seul, c'est en lui seul, ce n'est pas dans ce monde. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ est mort. Oui, il est passé par la mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Et c'est ce qu'on dit à ces anges, à ces femmes qui sont venues au sépulcre. On le voit au verset 6. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, il faut que le Fils de l'homme ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Ce soir, Dieu veut qu'on se souvienne de ce qu'il a fait. Et Dieu veut qu'on se souvienne de ses paroles, de ce qu'il a accompli. Oui, tout à l'heure, on partageait cela. Il y a des expériences dont on peut se souvenir, des expériences que l'on a fait avec Jésus, des expériences où il est intervenu, des délivrances, des choses extraordinaires qui nous ont touchés, bouleversés. Et il est important de nous en rappeler. Parce que cela nous donne toujours cette soif, ce désir d'aller plus loin, d'être toujours près de lui et d'avoir toujours cette soif de sa présence. Et ce soir, oui, peut-être qu'il dit à quelqu'un, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi, souviens-toi de mes paroles. Et peut-être à vous qu'il ne le connaissez pas, il vous dit, regarde. Écoute cette bonne nouvelle. Regarde à l'œuvre de la croix. Oui, il a fallu Ça ne pouvait pas être autrement. Il faut, c'est un impératif. Il a fallu que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, soit livré entre les mains des pécheurs. Et ça, c'était une parole que Jésus-Christ annonçait et qu'il a annoncé à ses disciples, aux 11, qu'il a annoncé à ces femmes qui étaient là et qu'il leur a annoncé à plusieurs reprises. Mais qu'elles avaient oublié. Souvenez-vous, il faut que Jésus-Christ a dû être crucifié, oui, il a fallu qu'il soit crucifié pour nos péchés. La Bible nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Jésus-Christ est mort, oui, pour chacun d'entre nous. Encore aujourd'hui, ce soir en 2015, Jésus-Christ est mort pour nous, nous qui sommes ici présents. Il a fallu que Jésus-Christ soit crucifié, soit livré, qu'il souffre la croix. Lui le saint, lui le juste, lui qui n'avait commis aucun péché, lui qui est Dieu fait homme, qui s'est incarné, qui est venu vers nous. Il a été obéissant, obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Non, la croix ce n'était pas un échec, la croix ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une erreur de parcours. La croix c'était la mission principale pour laquelle était venu Jésus-Christ, c'était son but. Il était venu pour mourir sur la croix, donner sa vie pour chacun d'entre nous, afin que nous ne soyons pas condamnés, mais que nous puissions recevoir le pardon, que nous puissions être purifiés, que nous puissions être réconciliés avec Dieu, avoir cette relation avec lui, non pas une religion, mais une relation proche avec lui. Oui, Jésus-Christ est venu pour cela. Il a donné sa vie pour moi, pour nous, pour vous, pour toi. Il a dû être livré, crucifié, mais la Bible nous le dit, 3 jours après, il est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas resté sur cette croix. Jésus-Christ a été placé, oui, dans un tombeau, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et oui, c'est pour cela que nous n'aimons pas représenter Jésus-Christ crucifié sur une croix. Car Jésus-Christ n'est plus sur la croix, et Jésus-Christ est dans le ciel, et il est vivant, il est au-dessus de tout, et il maîtrise tout, il a tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Souviens-toi, regarde à l'œuvre de la croix, à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Par la suite, ces femmes qui ont était bouleversé certainement à ce moment-là, de voir ces anges, d'entendre cette nouvelle, de réaliser les paroles de Jésus, de s'en souvenir. Ces femmes qui ont été bouleversées à ce moment-là sont venues certainement rapidement voir les 11, voir les apôtres. Et elles leur ont annoncé, ce qu'elles ont vu, elles leur ont annoncé que Jésus-Christ est vivant. Mais il nous est dit, ils prirent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. On voit ces disciples, ces apôtres, être dans l'incrédulité et prendre ces discours pour des rêveries. Peut-être que ce soir, tu prends toi aussi ces discours pour des rêveries. Peut-être que tu as entendu ce message plusieurs fois et que tu te dis, mais non, c'est pas pour moi ces choses-là, ce n'est qu'une fable. Ces choses-là, ce ne sont que des rêveries. Mais je veux le redire, parce que c'est vraiment ce pourquoi Jésus est venu. Il est venu non pas pour nous donner de faux espoirs, il est venu non pas pour nous donner des rêves, il est venu pour nous donner des convictions. Il est venu réellement pour agir et pour manifester sa puissance dans nos vies. Alors oui, tu peux croire que ces discours sont des rêveries, mais tu peux aussi, comme Pierre à ce moment-là, tu peux aussi te lever. C'est ce qu'il est dit au verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Tu peux prendre cette décision ce soir. Tu peux prendre cette décision de vérifier par toi-même, tout simplement. Tu peux prendre cette décision de vérifier tout ce qu'on annonce, tout ce qui est annoncé ce soir. Tu peux prendre cette décision de le vérifier par toi-même. Tu peux prendre la décision de vérifier ce que la Bible dit. Et tu t'apercevras que ce que la Bible dit est vrai. Pierre a entendu cette nouvelle. Pierre a entendu lui aussi que ces femmes avaient vu des anges, qu'elles avaient réalisé que Jésus-Christ était vivant, ressuscité. Et cela a fait un écho dans le cœur de Pierre. Il s'est levé, il a pris cette décision, il s'est dit, mais je vais vérifier, je veux voir de par moi-même, je veux vérifier ce qu'on me dit. Il s'est levé et il a couru. Il s'est dépêché, il a couru avec hâte pour vérifier, voir ce qu'on lui disait. Et ça me rappelle le témoignage de ce jeune garçon qui était à l'aube de sa, voilà, de sa jeunesse et qui était bien triste, qui était lui aussi bien triste, comme la plupart des disciples dans ce passage. Et qui avait une situation, bien triste. C'est son témoignage et il disait au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, il y avait plein de choses dans sa vie. Alors qu'il était là au départ de sa vie, de son avenir, dans plein de domaines, il était désespéré. Pour lui, il n'avait plus d'espérance. Il était blessé, brisé par des choses qu'il avait vécues et il n'avait plus d'espérance. Il n'espérait plus grand-chose de la vie. Mais un jour, il va entendre ce message. Un jour, il va entendre cette bonne nouvelle. Il va entendre que Jésus-Christ à la croix a payé le prix. A payé le prix de ses péchés et qu'il a pris sur lui sa condamnation. Il va entendre qu'il peut être libéré et qu'il peut rentrer dans cet avenir. Cet avenir fait d'espérance. Un avenir où Dieu a des projets. Et ce verset va vraiment marquer le cœur de ce jeune homme. Et c'est son témoignage. Et il va raconter que dès qu'il va entendre ce message, dès qu'il va l'entendre pour la première fois, il va être touché au plus profond de son cœur et il va courir. C'est son témoignage et c'est interpellant. Il va courir vers Jésus. Et il dit dans son témoignage, voilà, je n'ai pas attendu 6 mois, 1 an, 3 ans pour venir à Jésus. J'ai couru vers lui, j'ai couru à Jésus, je suis venu me jeter dans ses bras. Et il m'a libéré, il m'a délivré, il m'a transformé, rempli de sa paix. C'était son témoignage, c'est son témoignage. Ce verset, oui, m'a rappelé ce témoignage. Cette expérience, vous pouvez la vivre vous aussi. Vous pouvez vérifier, courir. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire ce soir. À ne pas attendre, à ne plus attendre, à ne plus vous retenir, mais à courir, à venir à Jésus, à venir à lui. C'est ce qu'a fait Pierre. Il l'a choisi. Il a pris cette décision de vérifier. Et ce soir, vous pouvez prendre la même décision, vérifier tout ce que l'on vous dit. Vous pouvez prendre la décision et vous pouvez rentrer chez vous, comme Pierre, vous pouvez rentrer chez vous dans l'étonnement. En ayant le cœur touché, en ayant été interpellé. Mais vous pouvez rentrer chez vous en étant bien plus que dans l'étonnement. Vous pouvez rentrer chez vous en ayant l'assurance, la conviction que vous êtes sauvé, que vos péchés sont pardonnés. Vous pouvez rentrer chez vous en étant guéri, en venant à Jésus, en voulant justement courir, vérifier sa parole, en voulant venir à lui, simplement, avec sincérité, mais avec repentance, en réalisant, oui, que à la croix, Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés, en réalisant qu'on est pécheur et en venant à lui comme cela, en venant à lui le cœur repentant et en demandant pardon, en demandant vraiment pardon à Dieu, vous vérifierez et vous verrez vraiment Dieu manifester sa puissance dans vos vies. Oui, vous pouvez repartir ce soir chez vous plus que dans l'étonnement. Vous pouvez partir en étant guéri, en étant restauré. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, ceux qui sont dans l'oppression. Il est venu pour redonner la vue aux aveugles. Il est venu pour manifester sa grâce, son amour, sa puissance. Oui, Dieu veut vraiment ce soir, il veut confirmer sa parole, tout simplement. Il veut confirmer sa parole, mais il ne force personne. Il ne force personne. Il y a un choix qui nous appartient. Et ce soir, il nous appelle vraiment, il nous appelle à venir à lui. Il y a un appel qui est urgent, qui est important. Oui, parce qu'il y a un appel à saisir la vie. On peut être en vie physiquement, mais être mort intérieurement, être mort spirituellement, être séparé de Dieu. Et si on ne change pas, si on ne se repent pas, on peut l'être pour l'éternité, dans un lieu de tourment, dans un lieu terrible, où il y aura des grincements de dents, où on ne peut s'imaginer la souffrance, le désarroi, et ce qu'on vient de partager par rapport à, par exemple, cette femme qui était dans une douleur extrême, ce n'est rien comparé aux douleurs qu'il peut y avoir, aux souffrances qu'il peut y avoir dans ce lieu qui est l'enfer. Ces choses-là sont la réalité, la parole de Dieu en parle, et là aussi ce n'est pas des faux espoirs, ce n'est pas des fausses choses, ce n'est pas des rêveries, c'est la réalité. Mais il est vraiment important de prendre cette réalité en compte, de réaliser qu'il est urgent d'être en règle avec Dieu, d'avoir la paix avec lui, l'assurance d'être sauvé. Et c'est ce que Dieu veut faire, vraiment nous donner cette conviction, en venant à lui, en nous repentant, simplement. Aujourd'hui, on n'a pas à venir à lui comme ces femmes qui sont venues au tombeau de Jésus. Vous n'avez pas à venir à lui en prenant un billet d'avion pour aller voir à Jérusalem son tombeau, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, on vient à lui par la foi. On vient à lui simplement, et ce soir dans ce lieu, vous pouvez venir à lui par la foi, dans la prière, et simplement demander vraiment, comme je le disais, oui, pardon. Et vous verrez, vous vérifierez la parole de Dieu. Vous verrez Dieu confirmer sa parole dans vos cœurs. Vous verrez cette immense paix vous submerger et Dieu agir. Vraiment, vous le verrez vous transformer. Ce soir, c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exception. Amen. On va prendre un moment, on va se recueillir. On va prendre un temps maintenant, un temps vraiment où chacun d'entre nous, nous pouvons faire cette prière dans nos cœurs, cette prière de repentance, cette prière sincère, cette prière où nous courons vers Jésus, où nous courons pour vérifier, pour voir, pour le laisser intervenir. Et vivre non pas des faux espoirs, vivre non pas des rêveries, mais vivre la réalité de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te dire toute notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci, oui, pour cette lumière donnée aux hommes. Merci encore pour, Seigneur, cet appel que tu fais ce soir à nous tourner vers toi. Merci parce que tu n'es pas insensible, parce que tu vois ceux qui sont dans le désarroi. Tu as été ému de compassion en voyant cette femme qui était sur un chemin de mort. Et ce soir, tu es ému de compassion, nous le savons. Tu es ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu rempli de miséricorde. Tu es celui qui a prouvé ton amour. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Ce soir, je te prie vraiment, Seigneur, de venir agir dans les cœurs, de manifester ta présence, ta puissance, de confirmer ta parole. Oui, tu es ce Dieu vivant, tu es le Dieu vivant et vrai, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Éternel, tu es grand, Seigneur, et c'est vers toi que nous nous tournons. Viens, Seigneur, viens agir dans les cœurs maintenant. Seigneur, vraiment, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta grâce, ta patience. Te rendons grâce pour cette main qui est tendue. Nous te rendons grâce parce que oui, tu es celui qui restaure. Oui, tu as un avenir. Nous te rendons grâce, ô Éternel, parce que tu es celui qui ne déçoit jamais. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Oui, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.